Les jardinières.
Salut tout le monde et bienvenue dans les jardinières. Ah, la bonne fraîcheur du matin, on a le privilège d'en profiter à l'ombre d'un cerisier. Ce pauvre cerisier qui d'ailleurs souffre en ce moment à cause de la canicule. Alors comme vous êtes déjà debout, évidemment, on va joindre l'utile à l'agréable et vous donner plein de conseils pour prendre soin de vos espaces verts durant cette période de chaleur. Sophie aussi, elle s'est réfugiée au frais dans le studio. Bonjour Sophie.
Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Effectivement, telles les pauvres petites fleurs assoiffées que nous sommes, on va s'abreuver de toutes les bonnes astuces de notre jardinier professionnel. Et pour cette avant-dernière émission de la saison, on accueille avec joie aujourd'hui Olivier Ribaud, pépiniériste à Queuve. Bonjour Olivier.
Bonjour à vous.
Et nous sommes le 29 juin et entre deux coups de soleil et de brumisateurs, on fait la part belle à toutes vos questions. Quelles plantes souffrent le plus de la chaleur? Que faire pour les épargner de la canicule? Toutes vos questions sont évidemment traitées grâce à Olivier Ribaud.
Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de questions bêtes. Pour les poser, vous composez dès maintenant le 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Sinon, vous pouvez toujours nous écrire un SMS en inscrivant le mot jardin suivi d'un espace et de votre question et vous envoyez le tout au 939. Et autrement, eh bien, il y a toujours le formulaire présent sur nos sites internet sous l'onglet questions aux jardinières.
Et voilà, tout est planté, même le décor. Allez jardinières, c'est parti.
Les jardinières. Sophie et Stéphanie.
Et on a reçu une question la semaine dernière, un SMS qui nous dit la chose suivante. J'ai reçu du jardin d'une amie des oignons de tulipes, habitant un appartement, je pensais les planter dans des pots en automne. Alors en attendant, où puis-je les stocker et au printemps prochain, je pourrais les mettre. Elle se demande si au printemps prochain, elle pourra les mettre sur la terrasse. Alors on prend un petit peu d'avance, hein, Olivier Ribaud. Est-ce que vous avez un petit indice?
Alors bien sûr, les oignons de tulipes sont possible d'être gardé maintenant, comme elle les a, dans des cageots, je dirais moi dans un endroit sec, pour les laisser se dessécher. Le feuillage va venir jaune, va venir sec. Et puis après, pendant la saison d'été, elle va les nettoyer, elle va garder juste le bulbe, qu'elle va aussi continuer de garder toujours dans un endroit frais, puis bien ombragé, pas en plein soleil, pour pas qu'ils viennent trop cuits par le soleil. Donc vraiment dans des endroits, dans une cave ou dans un réduit ou dans un petit grenier. Puis elle les garde comme ça jusqu'au mois de fin août, début septembre. Et puis là, alors bien sûr, elle peut les remettre en terre, en pot, avec une bonne terre assez lourde, parce qu'une tulipe, c'est quand même une plante de pleine terre, pas une plante de terreau trop léger, parce que sinon, après, sa tulipe va souffrir de sécheresse pendant la saison. Mais elle va les remettre en pot, et puis elles vont faire des racines, elles vont commencer de pousser à l'automne, et puis au printemps, elles vont sortir de terre, et sortir de ces pots, et puis elles vont fleurir. Je dirais que, de toute manière, quand elle les aura mis en pot à l'automne, elle doit les garder sur son balcon, sur une terrasse ou sur un bord de fenêtre. Il ne faut pas les prendre à l'intérieur, parce que sinon, elle va changer le cycle naturel, ils vont être au chaud, donc ils vont fleurir déjà à Noël. Ouais. Donc elle va les mettre en pot et les laisser à l'extérieur, puis ils vont pousser naturellement, puis sortir au printemps.
Et voilà, ce sera un joli printemps fleuri.
De tulipes.
Voilà. Nous avons quelqu'un en ligne, hein, Sophie, quelqu'un nous a appelé de si bon matin.
De si bon matin, c'est Lucienne de Baule qui est déjà en ligne et qui a une question pour vous, Olivier. Bonjour Lucienne.
Bonjour.
Lucienne, est-ce que vous pouvez commencer par baisser un petit peu le son de votre radio derrière?
Oui,
parce qu'on entend tout
d'accord.
À double. C'est gentil.
Alors,
après, on vous écoute.
Directement. Voilà. Alors, écoutez, j'ai un citronnier qui a énormément fleuri et puis il y a beaucoup de citrons en grappe. Est-ce que je dois en enlever?
Alors, ce n'est pas nécessaire parce que le citronnier, s'il a fleuri, s'il a été fécondé et puis que vous avez de jolis petits citrons maintenant, normalement, ils vont tous venir à maturation. La seule chose, c'est que c'est un petit peu comme dans un arbre fruitier pommier. Ils veulent peut-être rester plus petits. Donc, vous en aurez beaucoup des plus petits.
Ah, oui.
Si vous voulez qu'ils viennent un peu plus gros, vous pouvez un peu sélectionner. S'il y en a qui sont un peu biscornus ou tachés, vous pouvez déjà les enlever. Puis après, il y a un autre risque qui peut arriver, c'est que s'il y en a comme ça énormément sur une pousse, c'est que vous avez de jolies pousses de 2 ans ou qui ont bien fleuri, c'est surtout pour ça, eh bien, ils peuvent être faibles, donc ils peuvent casser sous le poids du citron. Donc, Il faudra veiller plutôt à ça, que si vous devez un peu les caler, mettre des tuteurs ou des bambous, les attacher, pour pas que sous le poids du citron, à fur et à mesure qu'ils grossissent, ça casse vos branches. Ce serait dommage d'en perdre.
D'accord. Mais sinon, vous pouvez... Ah oui, parce que vraiment, il est super beau.
Voilà. Mais vous pouvez quand même sélectionner, enlever les plus vilains, et puis surtout faire attention de continuer de l'arroser, puis de le nourrir pour arriver à remplir ces citrons, donc à les faire grossir le plus possible.
Oui, comme maintenant, je leur donne en tout cas 5-6 litres, en tout cas, par semaine, puis encore plus même. Hein.
Voilà, oui, on est dans une période boivent, ça boit, oui, il fait chaud. Donc,
Et puis, voilà, et puis justement, c'est un petit peu le même problème, c'est les boscopes. Il y a tellement de pommes, je peux en enlever alors.
Alors, vous avez déjà de la chance, parce que des pommes cette année, tout le monde n'en a pas énormément.
Oui, mais... et bien justement, c'est un arbre qui ne me donne rien du tout normalement, voilà. Et puis cette année. Alors je vais en enlever un petit peu quand
bien
même.
Bien sûr, vous pouvez aussi sélectionner, vous choisissez, vous enlevez de nouveau aussi s'il y a des pommes tachées, des pommes qui ne sont pas belles, et puis vous en gardez une bonne moitié pour que vos pommes qui sont présentes soient très jolies pour cet automne.
Très bien. Voilà. Et puis encore une autre question, mais là, je ne sais pas si vous pouvez me répondre. J'ai des échalotes et puis des oignons. Ils ont tellement des longues tiges. Oui. Est-ce que je dois les coucher ou bien ?
Alors, il ne faut pas les coucher avant que l'échalote ou l'oignon soit déjà assez grand, donc ce qui est sous terre, parce que sinon, après, ils arrêtent de grandir. Quand on couche l'oignon, quand on casse la tige de l'oignon, c'est pour arrêter la croissance, prématurer la pousse pour pouvoir après les sortir et puis les mettre sécher. Donc vous attendez.
Ah d'accord, alors je vais laisser tel quel alors.
Voilà. Alors c'est gentil.
Très bien.
Ben, merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur. Je vous souhaite un bon week-end.
Pareil
merci.
À vous. Au revoir.
Bon week-end à vous.
Merci, bon week-end.
Merci.
Et ben voilà, si vous voulez faire comme Lucienne, et bien vous composez le 0901 70 20 20 jusqu'à 8h. Et puis, on a reçu également un formulaire de notre site internet de la part de Lucie de Valbirs, qui nous pose la question suivante. Olivier, un de mes fraisiers donne des fraises qui deviennent blanches et molles. Alors, elle demande simplement s'il est malade et s'il y a une petite solution à ça.
Alors, ça peut être soit naturel, soit normal, ou parce qu'on a de plus en plus de variétés de fraises complètement différentes, ou alors c'est simplement qu'il peut-être y a une carence ou un manque sur les premiers fruits qui sont bons, ne viennent pas rouges, ça c'est possible. Mais je pense plutôt qu'elle a peut-être quelques pieds de fraises qui sont de variétés où c'est que la fraise n'est pas vraiment rouge, parce qu'on peut les trouver maintenant, des fraises qui restent plutôt un peu roses, un peu jaunes, et ça peut arriver. Mais sinon, c'est peut-être les quelques premières fraises, ça faudrait voir sur place, mais c'est peut-être les quelques premières qui ne sont pas venues mûres, et puis qu'elles vont disparaître, et puis que les prochaines seront bonnes à cueillir et puis à récolter.
En tout cas, quelle parfaite période avec tous ces petits fruits rouges. En tout cas, c'est vrai qu'on a envie d'en avoir le plus possible. Si vous avez, vous aussi, des questions fraises ou autres, vous qui nous écoutez à 7h16, eh bien, n'hésitez pas, 0901 70 20 20. Il y a aussi le SMS, un petit SMS au 939 en mentionnant le mot « jardin », un espace et votre question. Ou alors le formulaire sur nos sites internet. On va faire une petite respiration musicale.
7h, 8h, les jardinières.
Et pendant cette pause musicale, eh bien, on a reçu un appel de Fridley de Tramelan qui est avec nous en ligne. Bonjour Fridley.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Allô, je voudrais savoir,
Alors, on va commencer, je vais dire comme à la personne d'avant, est-ce que vous pouvez baisser votre radio derrière parce qu'on entend en double, alors c'est un petit peu gênant. Et puis après, on écoute votre question.
Un instant, voilà. Ah, ça va comme ça ?
C'est super, merci beaucoup.
Je vous en prie. Alors, j'ai des plants engazonnés autour de chez moi, et puis chaque fois que je tends maintenant, j'ai toujours plus de fourmilières. Ah, c'est incroyable, c'est rempli de fourmilières, et puis je ne peux pas m'en débarrasser. Alors, je voulais savoir s'il y a un produit ou s'il y a une solution pour éviter ça, parce que ça me donne des taches de terre.
Oui, tout à fait.
Et puis, il y en a chaque fois que je tends, il y en a plus.
Oui. Alors, on est dans une période, à l'heure actuelle, où c'est que beaucoup de gens se plaignent de ça, même en courrière, chez des clients, il y en a dans des bacs, il y en a... Les fourmis sont très présentes à cette période ici, ils sont en train de chercher des petits endroits pour aller se cacher un peu à l'ombre. Elles travaillent beaucoup. Il y a deux solutions. Je ne suis pas le premier à vouloir les faire disparaître, parce que si, oui, bien sûr qu'il existe des produits, mais sinon, parce que une fourmi est utile, on sait que la fourmi va aller manger tous les excréments de pucerons, tout ça. Donc c'est vrai qu'elles sont désagréables quand elles commencent à venir dans les maisons. Il y a soit des petites boîtes qui peuvent les faire disparaître. Il y en a qui ont des autres solutions, les eaux chaudes, il y a le sel qu'ils n'aiment pas trop, mais sinon après les accepter un petit moment parce qu'elles ne vont pas être là longtemps. Elles sont en train de se déplacer, elles vont chercher des endroits ombragés pour se cacher, mais elles vont déplacer de la terre, ça c'est vrai. Alors soit si vous faites aussi un peu une zone plus humide, parce que quand elles se propagent comme ça, puis qu'elles se déplacent, elles déplacent la terre avec, c'est parce qu'elles ont l'occasion d'avoir de la terre sèche à transporter. Si vous avez peut-être un peu plus d'humidité, vous arrosez un peu plus les bords, comme ça, eh ben elles vont soit pas forcément disparaître, mourir, mais elles vont se déplacer puis aller ailleurs dans la partie de terre ou du gazon. C'est un petit peu une seule solution.
C'est la seule chose à faire. Ouais. Voilà.
Sinon, vous avez bien sûr des produits, mais c'est peut-être pas forcément utile de les faire mourir, parce qu'une fourmi, ben, c'est quand même
utile
à garder pour la diversité de votre sol.
Ah, ouais. Mais si je mets de l'eau chaude ou si je mets du sel, le gazon est brûlé.
Pas forcément de l'eau chaude, seulement de l'eau. Vous arrosez bien les bords où c'est qu'elles sont. Vous mettez beaucoup d'humidité. Elles n'aiment pas l'humidité. Vous verrez toujours des fourmilières dans des parties très sèches. C'est pour ça qu'elles sont là. Donc si vous cassez un peu ce cycle, vous gardez humide pendant une quinzaine de jours, ben ces fourmis vont se déplacer puis vont aller ailleurs sans être sur vos dalles. Elles vont aller dans le gazon, dans les arbres, elles vont aller chercher des endroits beaucoup plus secs. Voilà.
D'accord.
Ben merci beaucoup.
Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous, bonne journée.
Bonne journée, puis bon week-end. Merci, au revoir.
Merci, bon week-end.
Vous avez encore le temps de nous appeler au 0900 70 20 20. On a reçu d'ailleurs une petite question par SMS. Olivier, on a encore juste le temps de vous la poser avant la pause. Quand faut-il planter un sorbier à 1000 mètres d'altitude, quand il a les feuilles ou avant?
Alors, si elle veut les planter maintenant qu'ils sont en feuilles, parce qu'elle est dans une région 1000 mètres, c'est possible. Il faut juste trouver un sorbier qui est bien sûr dans un pot, dans un conteneur, qu'elle puisse enlever le pot et puis le mettre en terre. Ou sinon, elle peut le faire à l'automne, quand il n'y aura pas les feuilles ou qu'il y a encore les dernières feuilles, mais le faire assez rapidement à l'automne, fin août, début septembre, pour qu'il ait le temps de faire ses premières racines pour passer l'hiver et puis être adapté au climat rude de 1000 mètres ou 1500 mètres. Donc, c'est des plantes qui sont solides, qui tiennent, mais ça peut être fait août, septembre. Après les grands chauds, maintenant, ce serait la plus belle période. Maintenant, si elle le fait maintenant, il faudra le suivre et l'arroser régulièrement pendant un mois. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué.
Mais c'est possible.
Pas attendre, c'est possible. Ouais. Parce que, de toute façon, maintenant, elle va le trouver dans un conteneur, dans un pot. Petit, grand, on peut trouver des sorbiers de toute taille qui sont déjà cultivés dans un contenant. Donc, elle peut le planter maintenant ou au mois de septembre.
Voilà, donc c'est vrai que peut-être éviter de le faire maintenant. Est-ce que les climats à 1000 mètres d'altitude, ça change quand même pas mal des climats de plaine pour ce genre de choses?
C'est que le fait d'être dans des zones un peu plus hautes, les températures sont plus froides, surtout l'hiver. Donc mettre en place des arbres, des arbustes, ce serait bien de les faire assez rapidement, justement, comme je disais avant, qu'ils aient le temps de s'adapter, faire des racines assez profondes, pour que si on a un hiver très rigoureux, très rude derrière, eh bien qu'il puisse survivre et puis être joli au printemps suivant.
Merci beaucoup Olivier Ribaud. Je rappelle que vous êtes donc avec nous jusqu'à 8h avec la fraîcheur du matin. Je suis sûre que vous avez plein de questions pour votre jardin. Et justement, Sophie, vous allez nous dire comment poser des questions ce matin.
Eh bien, vous pouvez le faire par trois moyens. Le premier, c'est le téléphone au 0900 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Sinon, vous pouvez prendre votre téléphone portable et nous envoyer un SMS au 939 en indiquant le mot jardin avant votre question. Et pour finir, eh bien, il y a sur l'ordinateur, sur nos sites internet, nos formulaires que vous pouvez trouver sous l'onglet émission questions aux jardinières. À tout de suite.
7h, 8h, les jardinières. Les jardinières.
Eh ben oui, on est de retour dans les jardinières et en bonne compagnie, bien sûr. Avec Sophie, on a la chance d'être accompagnée de notre professionnel du jour, Olivier Ribaud, pépiniériste à Queuves. Il répond à toutes vos questions jardinage. Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez.
Et vos questions, vous pouvez les poser en composant le numéro de notre standard téléphonique, le 0901 70 20 20, pour 36 centimes la minute. Et si votre voix n'est pas est encore trop éraillée, on lit aussi vos SMS et vos formulaires. Pour rappel, il vous suffit d'indiquer le mot « jardin » au début de votre SMS, de laisser un espace puis de taper votre question et vous envoyer le tout au 939. Et je rappelle que vous avez encore jusqu'à 8 heures, hein, 25 minutes pour poser toutes ces questions qui feront du bien à votre jardin.
Et justement, on a reçu un SMS. Ah, et nombreux SMS hein, ce matin, qui dit la chose suivante, Olivier. Mon citronnier a des boutons rouges sur les feuilles, comment le soigner ?
Alors, le bouton rouge sur les feuilles, ça, c'est un peu compliqué à décrire. Ça peut être soit une maladie, soit une rouille. Mais un bouton, je pense qu'il a eu une attaque de style une cloque ou comme ça. La feuillette d'un citronnier est assez dure, assez résistante. Pardon. Et à mon avis, s'il n'y en a que sur des anciennes feuilles, ces feuilles, soit les supprimer, soit enlever. Si c'est vraiment une grosse attaque, il faudrait voir ça précisément de près, voir quel genre de maladie c'est. Parce que là, c'est un peu compliqué. Si c'est une maladie, il peut faire un traitement fongique, donc justement contre les maladies de champignons, de rouille, comme ça. Mais il faudrait quand même voir ça, peut-être avec un professionnel de plus près, pour être sûr de ce qu'on fait, plutôt que de faire des traitements bêtes et puis qui ne servent à rien.
Donc vous dites que s'il n'y a que sur quelques feuilles qui sont plus anciennes, eh bien c'est possible juste de les enlever.
Moi, je pense, oui.
Ouais, donc peut-être d'abord essayer ça.
Et déjà puis, ça, essayer de les frotter, si c'est que quelques taches. Après, si c'est vraiment une grande invasion, il faudrait soit voir visuellement à quoi ça ressemble pour utiliser un produit adéquat à ce genre de choses.
Donc voilà, puis si jamais vous qui nous avez écrit, vous pouvez aussi nous préciser à quoi ressemblent ces petits boutons rouges, afin qu'on puisse peut-être plus vous aider. Bien voilà, le mieux, c'est d'aller le montrer directement à un professionnel de visu. Voilà. Nous avons quelqu'un en ligne, Sophie.
Oui, c'est Raymond qui a des petits soucis de fraisier et qui voulait vous en faire part, Olivier. Bonjour, Raymond.
Bonjour.
Oui, bonjour, Olivier. Raymond.
Bonjour.
Courcelles près de Payerne. Petite question, j'ai changé deux fois de variété de fraisier.
Oui.
Je suis à 430 mètres d'altitude.
Oui.
L'année passée, je ne me rappelle plus la marque que c'était. Je n'ai pas eu de fleurs ni de fruits, mais les plantes étaient splendides.
Oui.
L'automne passé, j'ai planté des Wadenswiller.
Tout à fait.
Les plantes sont splendides. J'ai des stolons par tous les coins. J'ai aucune fleur, aucun fruit.
Ah, ça, c'est pas bien. Je dirais que la variété Wadenswiller, qui est une des variétés de fraises les plus courantes et les plus connues depuis un certain nombre d'années, sont vraiment adaptées, adéquates. Maintenant, si en plus vous les avez rachetées, des plants nouveaux et tout, ça doit fonctionner. Ce qui peut arriver, nous, ce qu'on voit beaucoup dans les plants de fraises, quand vous voyez toutes ces grandes cultures de fraises dans les champs qu'on va cueillir, se servir, les plants des fraisiers ont été produits dans des entreprises spécialisées. Et puis au moment où on les plante au printemps ou en été, comme vous les avez fait l'automne, l'année suivante, ils donnent déjà. Parce que en fait, c'est un peu un terme dans notre jargon, c'est des plants frigos, c'est des plants qui ont été produits puis un peu forcés au froid pour que l'année suivante, ils aient cette réaction puis qu'ils donnent tout de suite des fruits. Peut-être que les vôtres, c'est des plants vraiment très très traditionnels et puis qui n'ont pas de fruits cette année puis qui vont donner l'année prochaine. Donc il faudrait garder que les plants, enlever les stolons et puis espérer que l'année prochaine ils vous donnent des fruits. Sinon après c'est que à la base vous avez acheté de mauvais plants. Mais sinon
voilà. Parce que le problème, c'est que moi, je ne mets jamais d'engrais. J'ai un tout petit jardin où j'ai pu mettre encore 6 tomates et 15 pommes de terre. Vous ne vous rendez pas compte.
Oui.
Mais j'ai juste mis une fois une année, mais ça fait
comme vous le dites,
un petit peu de mon compost, puis c'est tout. Hein.
Oui, mais comme vous le dites, si la plante en elle-même du fraisier, donc les feuilles et tout ça, se sont développées, sont assez grandes, il est censé venir des fleurs et des fruits. Donc c'est plus un problème de souche de votre plante fraise de départ qui n'était peut-être pas un plan adapté et puis vraiment de variété Weddensfield ou comme ça. Si vous achetez des plants dans des endroits, des professionnels spécialisés puis c'est typé Weddensfield, eh ben c'est censé donner parce qu'on a quand même des beaux résultats. On en plante pas mal et puis on voit que chez les gens, ça donne quand même toujours. Donc je pense que les garder, enlever les stolons et puis espérer que l'année prochaine, ça donne. C'est un petit peu la seule chose.
D'accord, c'est sympa.
Merci beaucoup, monsieur.
D'accord, c'est sympa. Allez, bonne journée à vous.
Bonne journée.
Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Merci, bonne journée.
Belle journée à vous et bien sûr merci de nous appeler ce matin. On reçoit pas mal de questions, dont des SMS à envoyer au 939, hein, je vous le rappelle. Une autre question pour vous, Olivier. Hein, plein de questions pour vous ce matin. Faut-il qu'il y ait un écoulement d'eau dans un pot où se trouve un citronnier?
Alors, c'est de toute façon, pour la gestion d'une plante, c'est toujours plus facile qu'il y ait un écoulement d'eau. Parce que si vous arrosez, s'il pleut, parce que normalement votre citronnier il est à l'extérieur, il doit pleuvoir dessus, ça lui fait quand même, c'est une obligation pour une plante. S'il pleut trop, si on arrose trop, le pot va se remplir et puis les racines vont pourrir. Donc le trou, c'est fait pour le trop-plein. Maintenant, on a des pots avec des niveaux, avec des jauges. C'est faisable, mais c'est plus difficile à gérer. Et surtout quand il est en extérieur. Il pleut beaucoup, c'est un petit contenant. La surface du citronnier peut être, les feuilles sont assez conséquentes. Ça peut ramener l'eau dans le pot et après, il sera noyé. Et après, pour enlever l'eau, c'est compliqué. Mais théoriquement, c'est beaucoup plus simple pour la gestion, pour garder une plante en forme dans un pot, qu'il ait un trou ou un endroit où c'est que l'eau, quand elle est remontée dans le pot, un bac à niveau d'eau pour qu'elle puisse être évacuée.
Est-ce que ça permet aussi de changer peut-être moins souvent la terre?
Non, c'est la terre, c'est un autre souci. Vous avez toujours dans un pot une plante, un citronnier qui peut y rester 2 voire 3 ans en faisant des apports de nutrition, d'engrais quand même régulièrement. Mais après, on va changer son pot, son contenant pour le faire grandir parce que sinon, une plante va rester de volume feuillage et branches par rapport au volume du pot qu'on lui aura donné. On ne pourra pas une plante démesurée dans un tout petit pot. Donc après, le rempotage est obligatoire aussi.
Pardon, merci Olivier Ribaud, vous êtes encore avec nous un bon quart d'heure. On a une autre question pour vous, une question qui s'adresse à Monsieur Jardinier. C'est Gaston qui nous dit que son pommier a toutes ses pommes qui tombent et il aimerait savoir pourquoi. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour éviter que ses pommes tombent?
Alors cette année, on a vu des arbres fruitiers, beaucoup dans les pommiers, qui ont fait des fruits. Bon, d'abord les fleurs, ils ont été fécondés, on a des petits fruits. Et puis maintenant, l'arbre, il les rejette. Alors, ça peut être dû déjà à la première chose, soit à cause de la sécheresse, ces temps, il fait chaud. Les fruits sont pas forcément de bonne qualité parce que soit on les a pas traités, ce qui est le plus souvent le cas. Et puis, le fait qu'ils sont pas très en forme, l'arbre ne les garde pas. On voit ça aussi sur des cerisiers. On a vu quelques cerisiers chez des clients. On se disait, ah bah tiens, il y a quand même des fruits, mais elle commence à devenir rouge, et puis elle sèche, elle tombe. C'est que le fruit aurait pu donner, mais il n'est pas assez, développé, et puis on en perd pas mal. Ça se fait quand même tout le temps, il y a toujours des fruits qui tombent, cette année il y en a un peu plus. Ça peut être aussi dû à des carences dans le sol, mais cette année plus que les autres fois. Alors, on n'a pas grand souci à part garder ce qui va rester, mais le fait d'avoir ces petits fruits qui sont mal formés, des fois où ils ont été piqués parce qu'on a eu beaucoup d'attaques de pucerons là voici un mois en arrière, donc c'est des fruits qui peuvent avoir été attaqués et puis que la plante après va rejeter et puis ils vont tomber puis sécher.
Et voilà, merci Olivier d'être avec nous ce matin. Vous vouliez ajouter quelque chose?
Pas pour le moment.
Bon, eh ben ça tombe bien. Moi, je vous propose de faire une petite pause musicale avec The Avener et Cade Bostani, exceptionnel duo Castle in the Snow. On reviendra tout à l'heure, évidemment, pour traiter toutes vos questions jardinage. I like
soul is running on a path that I cannot reach. My brain is shining and my head is hurting every day a little bit more. The light is fading now. My force is being sucked by a bloody leech. My fear is smiling and my dread is singing every night a little bit more. I cannot see anything.
Jardinière, Sophie et Stéphanie.
Des SMS, on en reçoit ce matin. Celui-là, il vient de Florian, qui vous demande, Olivier, il vous écrit plutôt, « Nous avons planté un saule pleureur à 1000 mètres d'altitude. Il était tout beau à son arrivée, mais là, les feuilles sont toutes brunes et elles commencent à tomber. Est-ce que c'est normal au début ?»
Alors, normal, je pense pas, parce que si tout va bien, il devrait avoir encore ses feuilles belles vertes. Deux, trois petites choses. S'il l'a planté ce printemps, et puis peut-être qu'ils l'ont peut-être pas assez suivi une ou deux fois d'arrosage, si c'est un grand saule pleureur, parce que ça demande quand même beaucoup d'humidité. Ils ont peut-être, les feuilles ont séché une fois ou deux, et puis bon, elles vont tomber, il en va revenir des nouvelles. Après, si c'est vraiment brun, brune, je pense que c'est à peu près ça. Il peut avoir aussi eu des petites attaques cet été. On a eu, début d'été, beaucoup d'attaques de, je disais avant, de pucerons, d'insectes piqueurs et tout. Donc, ils ont piqué beaucoup de feuilles. Toutes ces feuilles qui sont un peu attaquées, tout ça, la plante, elle ne les garde pas, elle les rejette, donc ils tombent. On voit les cerisiers qui font beaucoup ça maintenant. Ils ont les feuilles qui sèchent, qui tombent. C'est une partie de feuillage qui a été attaquée, qui se sont roulées. Donc, on voit des parterres de feuilles comme si c'était des feuilles mortes. Mais maintenant, il revient des nouvelles pousses avec des nouvelles feuilles. Donc, son saule pleureur, s'il faut continuer de le surveiller au niveau arrosage, surtout maintenant, que des nouvelles pousses viennent éclore et puis avec des nouvelles feuilles. Et puis, normalement, il doit repartir. Il n'y a pas trop de raisons qu'un saule ne reparte pas à cette saison, quoi. Je pense que c'est juste une question d'humidité qu'il a manqué.
On a reçu une autre question par formulaire, cette fois-ci de la part de Kylian de Montsevelier. Peut-on planter dans le jardin des oignons achetés au supermarché qui ont germé à l'air libre dans un bol de la cuisine ?
Oui, bien
sûr. Ça arrive souvent.
Oui, c'est clair, bien sûr.
Ça traîne longtemps.
On peut planter des oignons. C'est un oignon qui a déjà été planté et cultivé, donc il est récolté. S'il le replante, il va faire des feuilles, mais il va faire une fleur. Parce que ça, il ne va plus regrandir, il va juste faire des tiges. Puis après, il va passer à la fleur. Un oignon, c'est une plante bisannuelle. Donc la première fois, vous le plantez, il grossit, il fait un beau feuillage. Comme madame disait avant, on peut les casser pour prématurer la récolte, le sécher. Mais s'il repousse, comme on a tous des oignons qui poussent, qui font quelques bouts de feuilles, si vous les replantez, ils vont faire un beau feuillage. Mais après, il faut le consommer frais en feuillage. Parce que sinon, il va faire une fleur et puis il va sécher complètement, puis il va mourir.
D'accord, donc c'est vrai que c'est important de le consommer directement.
Après, voilà. Mais on peut faire pousser un peu ce feuillage pour utiliser les tiges vertes, comme on voit les oignons, les échalotes, mais surtout les oignons nouveaux maintenant.
Bah, bon petit truc hein, pour tous ceux qui laissent traîner leurs oignons trop longtemps.
On poursuit, Olivier, les questions s'enchaînent ce matin avec une question de Yves qui nous dit que son gazon a des taches rondes qui sont d'abord rouges et ensuite des taches vraiment de gazon sec.
Oui.
Du coup, qu'est-ce qu'il peut faire pour remédier à ça ?
Alors, on a vu ça dans cette période de pluie qu'on a eue, parce qu'on a déjà oublié qu'on a eu quand même 2-3 belles périodes d'humidité assez fortes.
Ouais, on oublie vite. Hein,
on oublie vite. C'est des ronds, c'est un champignon en fait qui se développe. C'est pas un champignon comme on les voit comestibles, mais c'est un petit champignon qui se développe sur le feuillage des gazons, qui s'est développé justement dans ces périodes humides, qui ont fait des cercles rouges, brunâtres. Après, on peut aussi avoir ce qu'on appelle justement des champignons qui se développent comme ça, et puis qui font faire des ces taches. On peut traiter ce genre de choses si on veut l'éliminer rapidement, mais le fait maintenant d'avoir des périodes très chaudes, très sèches, ces champignons ont séché naturellement, la tonte va les couper et puis ça va les enlever. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt maintenant qu'il a eu ça dans son gazon, chaque fois qu'il tondra, il faudrait qu'il nettoie sa tondeuse pour pas propager ces restes de champignons à d'autres endroits dans son gazon. Mais naturellement, il va disparaître. Et puis si vraiment les ronds sont trop attaqués et qu'il manque, que le gazon a séché complètement, il peut regratter, remettre un peu de graines et attendre que ces graines repoussent et refassent du gazon. Mais sinon, on n'est pas forcément obligé de le traiter, ça disparaît tout seul. Mais c'est venu à cause de ces grandes périodes d'humidité.
Donc un peu de patience suffit pour Yves.
Un peu de patience et puis peut-être remettre un apport. Si c'est attaqué, un gazon qui est attaqué justement par ce genre de choses, c'est des gazons qui sont peut-être un peu pauvres en nutrition, ils étaient un peu faibles. Donc refaire un apport d'engrais longue durée maintenant pendant la belle saison d'été pour reverdir son gazon, ça va combler ses taches et puis ça va repousser plutôt que de faire toujours un chimique. Donc autant ramener un engrais pour refaire pousser ce gazon, le retourner 2-3 fois et puis après il va revenir vert sans problème.
Merci Olivier, les questions s'enchaînent. On a reçu une nouvelle qui parle des cochenilles. Comment enlever les cochenilles blanches et durables sur les orchidées ?
Alors en principe, une orchidée n'est pas très grande. On va reprendre notre théorie. Si vous prenez un coton de ouate ou une lingette ou ce genre de choses, vous pouvez frotter vos orchidées. C'est l'occasion aussi d'enlever la poussière en même temps sur les grandes feuilles.
Ça commence à s'accumuler sur les feuilles.
Alors ça leur fera du bien, mais aussi pour continuer de pousser. Ce sera la solution la plus simple. Parce que si vous passez par un produit chimique et puis que vous traitez toute votre orchidée, eh bien, la fleur va souffrir et puis elle va se faner très, très rapidement. Donc essayez de les enlever manuellement. Ce sera la solution la plus judicieuse. Cherchez bien profond dans les feuillages pour bien les enlever. Et puis après, normalement, si on suit ça en 2-3 semaines, on devrait arriver à les éliminer sans faire un chimique. Mais sinon, après, il existe des produits adaptés qui sont utilisés. Mais pour une petite orchidée, c'est peut-être plus simple de le faire manuellement.
Merci Olivier, on a encore une petite minute pour faire la dernière question qu'on a reçue par formulaire qui nous vient de Bérangère. Elle nous demande, enfin plutôt à vous, à quel rythme faut-il mettre de l'engrais aux tomates ?
Alors, normalement, on a fait un apport d'engrais dans le sol, en granulé, en poudre de corne ou des choses comme ça. Et puis maintenant, on peut trouver dans le commerce des engrais liquides, justement, qu'on va additionner dans l'eau en arrosant ces tomates. Donc, je dirais que si on fait une fois la semaine, c'est suffisant. Je n'en mettrai pas plus parce que ça ne sert à rien non plus. Si on nourrit trop une tomate, elle va pousser. Et puis après, elle va être faible, elle va se casser, donc il faut la laisser pousser quand même normalement, naturellement. Mais si vous faites un apport d'engrais liquide une fois par semaine, ça représente tous les 2-3 arrosages, ça suffit.
Et bien voilà, super, merci beaucoup Olivier Ribaud. Il est déjà bientôt 8h, le temps file grâce à la fraîcheur matinale, puis surtout grâce à vos beaux conseils. Merci d'avoir décalé l'heure de votre café du matin pour répondre à toutes ces questions. Belle journée, surtout bel été. Hein.
Ben merci à vous.
Et puis, à la rentrée.
Merci.
Et puis c'est la dernière des jardinières pour moi, mais pas pour vous Sophie.
Et oui, les jardinières reviennent encore samedi prochain pour la dernière fois avant la pause estivale. Et nous serons accompagnés de Fabrice Rondet, notre paysagiste de Porrentruy. D'ailleurs, si vous avez déjà des questions pour lui, vous pouvez lui envoyer dès à présent par SMS au 939 ou grâce au formulaire. Et elles seront bien entendu traitées en priorité samedi prochain à partir de 7h. Bon week-end.
Et à la semaine prochaine pour vous. Et puis protégez-vous du soleil si vous jardinez.
7h, 8h. Les jardinières.